Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, merci d'être à l'écoute de Radio Vatican. L'actualité de l'Église de cette édition sera consacrée à la semaine du Pape, la synthèse des activités du Saint-Père au cours de la semaine qui s'achève, à la messe d'action de grâce pour le centenaire de naissance du cardinal sénégalais Hyacinthe Tiandoum, célébré samedi 25 septembre en l'église Santa Maria Portico à Rome, et aux nouvelles de l'église Famille de Dieu qui est en Côte d'Ivoire. L'actualité sociopolitique africaine, deuxième articulation de cette édition, nous conduira en Somalie, au Soudan, au Tchad, entre autres. À tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme.
Radio Vatican, France-Afrique, Françoise Niémier.
Ouvrons l'actualité de l'Église par la semaine du Pape. Donatien Nyembo.
Samedi, le pape a reçu en audience les évêques amis du mouvement des Focolari. Au chapitre des nominations, samedi, le Saint-Père a nommé le cardinal Dominique Mamberti, préfet du tribunal suprême de la signature apostolique, comme son envoyé spécial pour présider la Sainte Messe à l'occasion du 150e anniversaire de la fondation de l'association Pro Petri Sede le 27 novembre 2021 à Bruxelles. Le Saint-Père a également nommé le cardinal Carlos Osorio Sierra, archevêque de Madrid, en tant qu'envoyé spécial pour la célébration du 150e anniversaire du diocèse de Saint-Augustin aux États-Unis d'Amérique, prévu le 10 octobre 2021, au cours de laquelle aura lieu la cérémonie de couronnement de l'image de Notre-Dame de la Leche y del Buen Parto. Vendredi, il avait été rendu public la lettre du Saint-Père pour la concession de l'Ecclesiastica Communio au nouveau patriarche de Cilicie des Arméniens, sa béatitude Raphaël Bedros Anze Minassian. Toujours vendredi, le pape avait envoyé un télégramme en marge du décès du cardinal Urosa. Le Saint-Père avait reçu jeudi en audience privée l'ambassadeur de la République dominicaine venu présenter ses lettres de créance. Ensuite, il avait reçu en visite ad limina les évêques français. En fin d'après-midi du même jeudi, le pape avait célébré l'Eucharistie avec les participants à l'Assemblée plénière du Conseil de conférence épiscopale d'Europe. Mercredi, le pape avait tenu son audience générale en direct de la salle Paul VI du Vatican. Et lundi, le pape avait reçu en audience privée le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, suivi du cardinal Pedro Ricardo Barreto Jimeno, archevêque de Huancayo au Pérou, puis Mgr Luciano Soriani, nonce apostolique en Serbie, Mgr Michael Francis Crotti, nonce apostolique au Burkina Faso et au Niger, et enfin Mgr David Oren, ambassadeur d'Israël.
À l'initiative de l'ambassade du Sénégal après le Saint-Siège, une messe d'action de grâce a été célébrée pour le centenaire de naissance du cardinal sénégalais Hyacinthe Tiandoum le samedi 25 septembre en l'église Santa Maria Portico à Rome. Premier cardinal sénégalais, le cardinal Tiandoum aurait eu 100 ans en cette année 2021. Dans son homélie au cours de cette messe présidée par le cardinal Peter Turkson, préfet du dicastère pour le service du développement humain intégral, l'archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye, a rendu grâce à Dieu pour le don du cardinal Tiandoum au Sénégal et à l'Église universelle. Mgr Benjamin Ndiaye, dans un extrait de son homélie.
Nous faisons Eucharistie en rendant grâce au Seigneur en communion avec nos frères et sœurs en Église, avec les fidèles chrétiens du Sénégal et avec nos compatriotes musulmans, auxquels des liens multiples essentiels nous unissent. Au nom des évêques de la province ecclésiastique de Dakar, je vous salue, éminence, je vous salue, vous, excellence, ambassadeur, et vous tous ici présents, autour de la figure du cardinal Hyacinthe Tiandoum, pour lequel nous sommes en action de grâce. Ce pasteur dévoué que le Seigneur avait donné à notre pays et à l'Église universelle, de demeure vivant en notre mémoire dans la communion des saints, comme un exemple de foi, d'engagement, de générosité pastorale par sa contribution à la croissance de l'Église locale et à l'instauration aussi d'un climat social apaisé dans notre pays. Répondant à sa devise épiscopale, In verbo tuo laxabor ete, il avait accepté d'avancer en eau profonde pour jeter le filet dans la marée humaine, en vivant et en agissant comme pêcheur d'hommes. Nous rendons grâce à Dieu pour son engagement pastoral.
En prélude à cet événement, dans un entretien accordé à Radio Vatican, l'archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye, a mis en lumière la figure et l'héritage spirituel du premier cardinal sénégalais, Hyacinthe Tiandoum, dont on commémore cette année le centenaire de la naissance. Nous vous proposons un large extrait de cet entretien.
Une très belle figure, le cardinal Hyacinthe Tiandoum, à qui nous devons le passage d'abord, je dirais, d'une église missionnaire fondée par des expatriés à une église locale tenue en charge par des autochtones. Je rappelle que le cardinal Tiandoum a été sacré archevêque de Dakar en 1962, c'est-à-dire 2 ans après les indépendances. Et cet événement intervenait après une crise qui était un peu difficile au niveau du Sénégal sur le plan politique. Monseigneur Marcel Lefebvre, qui était jusque-là sur le siège de Dakar, n'acceptant pas très bien l'idée d'indépendance. L'Église a dû faire presque dans la précipitation pour pouvoir africaniser le poste et permettre de contribuer ainsi à la crédibilité de l'Église au Sénégal. Donc, Monseigneur Tiandoum arrive face à un défi. Une église qui doit être africaine en terre sénégalaise, en comptant sur ses capacités d'autodétermination, on a envie de dire. Et je crois qu'il a bien réussi le pari. Ayant été le vicaire général de Mgr Marcel Lefebvre, il avait donc déjà une certaine expérience de la conduite pastorale. Il a dû faire face à une organisation d'un diocèse assez vaste. Il va contribuer d'ailleurs par sa connaissance du milieu à la division de ce diocèse. Il en naîtra en 1969, c'est-à-dire 7 ans après qu'il est devenu archevêque de Dakar, un nouveau diocèse, le diocèse de Thiès. Nous gardons de lui le souvenir de quelqu'un qui avait une expérience de terrain, ayant été en mission dans le secteur rural, parlant plusieurs langues du pays, étant aussi ouvert à l'apostolat de laïcs, puisqu'ayant travaillé à la centrale qu'on appelait la direction des œuvres. Tout cela avait été précédé par des études en sciences sociales à Rome. C'est de ce pasteur-là que nous héritons en 1962. C'était une grande fête. Je m'en souviens, j'étais encore enfant, mais j'ai pu venir à la cathédrale de Dakar pour vivre cet événement. J'avais alors 10 ans. J'en rends grâce à Dieu.
Parler du cardinal Tiandoum, c'est aussi se rappeler un des acteurs majeurs du Concile Vatican II. Le cardinal Tiandoum et bien d'autres prélats africains avaient fait de l'inculturation leur cheval de bataille. Plus de 50 ans après le concile, au Sénégal, où en est-on avec l'inculturation?
Alors, rappelons d'abord cette expérience du Concile Vatican II. Nous avions un magazine local qui s'appelait Horizon Africain et qui rendait régulièrement compte de la tenue des sessions du concile. Et le cardinal Monseigneur Tiandoum, à l'époque, il n'était pas encore cardinal, relayait les travaux du concile à travers un certain nombre d'articles ou d'éditoriaux, aidé en cela d'ailleurs par un séminariste étudiant ici qui s'appelait Léon Dofé Diouf, qui deviendra par la suite son vicaire général et qui se faisait un peu comme le chroniqueur de ce qui se passait au concile. Nous saluons avec Tiandoum au concile les grandes figures de l'Ouest africain, mais même du continent africain, qui ont modélé vraiment aussi la figure d'une église post-conciliaire. Et pour nous, c'était toujours le plus important comment le Mgr Tiandoum passait des sessions du concile à son diocèse pour rendre compte de ce qui se faisait et donner les orientations dans le bon tempo pour que nous puissions réussir justement cette inculturation. On devra mentionner que précisément, Monseigneur Lefebvre, son prédécesseur, qui a eu des difficultés à accepter le fait conciliaire, va se heurter tellement aux décisions du concile que Monseigneur Tchandoum, par la suite, va servir de médiateur entre Monseigneur Lefebvre et le Vatican pour essayer de ramener Monseigneur Lefebvre sur le droit chemin. Donc nous apprécions la manière, le doigté avec lequel Monseigneur Tchandoum a su faire apprécier les fruits du concile à son église, pas seulement à son diocèse, mais à l'église au Sénégal et sans doute dans toute la sous-région, puisqu'on sait que nos évêques de l'Ouest africain, par exemple, à travers ce qu'ils appellent la Conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, vont se coaliser pour pouvoir agir ensemble de concert. Et nous saluons tout ce travail qui a été fait pour montrer qu'on peut être africain et être chrétien, qu'il est possible de célébrer la foi chrétienne en africain. C'était un grand défi qui nous permettait de dissocier le jumelage qui était souvent fait entre colonisation et christianisation. Être chrétien, c'est une valeur qui nous vient de l'identité, qui nous vient du Christ. Ça n'a rien à voir avec une civilisation particulière, quand même elle serait dominante sur le plan économique et militaire.
Et dans un pays comme le vôtre, où la majorité de la population est musulmane, on serait tenté de croire que l'islam est plus adapté à l'Afrique, que le christianisme.
On a pu le dire, mais c'est un raccourci historique qui ne tient pas compte précisément de cette histoire, parce qu'en fait aussi, l'islam est arrivé de manière conquérante, disons. Conquérante militaire ou conquérante pacifiste, mais c'est toujours l'étranger qui a amené la religion révélée chez nous. Nous étions plutôt adonnés à la religion naturelle. Dieu a voulu que la religion révélée nous arrive par d'autres, mais c'est à nous à faire l'assimilation de cette religion. Et autant les musulmans au Sénégal ont pu africaniser, je dirais sénégaliser l'islam, parce qu'on a le phénomène confrérique avec des leaders religieux qui ont marqué le parcours musulman, autant sur le plan chrétien aussi, on a de grandes figures, bon, Tchandoum en fait partie, mais il y en a de plus anciennes, que notre histoire doit découvrir et montrer pour qu'on sache comment on s'est progressivement mis à assimiler Jésus-Christ pour être à la fois sénégalais et chrétien.
Et aujourd'hui, vous pensez que l'église sénégalaise y est arrivée?
Non, bon, on est en bout de chemin, mais le chemin continue parce qu'en fait, plus on adhère à Jésus-Christ, plus on adhère aussi à ce qui fait le fond de l'homme. Or, de ce point de vue-là, le défi reste permanent, mais je crois qu'aujourd'hui, la manière dont on célèbre Jésus-Christ au Sénégal, c'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce que j'ai connu dans mon enfance. Les gens comprennent ce que l'on dit. Ils sont heureux de chanter des airs de chez eux, d'entendre un discours qui est plus accessible, de pouvoir utiliser des instruments et même des signes, des symboles, des habits qui collent plus à leur terroir, et tout cela participe de notre identité. En somme, il est de notre devoir d'être chrétien et africain en même temps.
Au Concile Vatican II, pour y revenir une fois de plus, le cardinal Hyacinthe Tiandoum est aussi intervenu sur la question de l'écuménisme que l'on peut aussi étendre au dialogue interreligieux. Pensez-vous que ce grand personnage que le cardinal ait aidé le christianisme à s'épanouir au Sénégal, un pays majoritairement musulman?
Il ne s'est pas contenté de théoriser la relation avec les musulmans. Il l'a vécu dans les faits en étant l'ami de plusieurs chefs marabouts auxquels il se plaisait à rendre visite et certains qu'il invitait même au pèlerinage national marial de Popongine. Bref, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous réclamer comme archevêque de Dakar sans marcher sur les pas de Monseigneur Tchandoum en termes de dialogue islamo-chrétien. Pour l'anecdote, une famille maraboutique du Sénégal avec laquelle il était très lié m'a rappelé à l'ordre pour me dire « Monseigneur, depuis qu'on vous a nommé archevêque de Dakar, nous ne vous avons pas encore vu à la maison. Il faut suivre les pas de votre prédécesseur. » C'est pour dire donc que vraiment nous héritons de ce point de vue-là d'un exemple que nous devons suivre et cela contribue beaucoup à une connaissance mutuelle, à une estime réciproque qui est le ciment d'une entente fraternelle entre croyants de sensibilités différentes.
Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar au Sénégal, il répondait aux questions de Donatien Nyembo. La suite de cet entretien vous sera proposée dans nos prochaines éditions. Direction Côte d'Ivoire, l'évêque de Yopougon, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, a procédé mercredi 22 septembre à la bénédiction et l'inauguration du nouvel évêché de ce diocèse situé à l'ouest d'Abidjan. Anciennement résidence épiscopale du premier évêque, Monseigneur Laurent Akran Mondjo, elle sert désormais de bureau aux services importants de la curie de l'église particulière de Yopougon. Les précisions de notre correspondant local.
C'est un bel hommage fait à Monseigneur Laurent Akran Mondjo, premier évêque de Yopougon endormi dans l'espérance de la résurrection il y a de cela un an. Sa résidence épiscopale est transformée en évêché par son successeur, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier. La bénédiction et l'inauguration des nouveaux bureaux de la curie diocésaine de Yopougon, faite mercredi 22 septembre 2021 par l'ordinaire du lieu.
Nous avons voulu que ce bâtiment désormais serve de curie diocésaine pour que les chambres réaménagées servent de bureaux. Monsieur Mandjo étant le premier évêque du diocèse de Yopougon, la Providence a voulu que là où se trouve l'évêché que nous venons de bénir s'appelle Carrefour Mandjo. Donc voilà un premier symbolisme. Pour, disons, les siècles à venir, ce carrefour portera le nom de l'évêque fondateur. Et c'est là que nous sommes en train de travailler. Et puis, nous ne pouvons qu'honorer la mémoire de Monsieur Mandjo puisqu'il a fait un bâtiment, non pas en pensant à lui seul, puisqu'il a prévu des salles de réunion, des choses vraiment adapté pour non pas simplement l'habitat d'un évêque, mais pour également le travail dans un évêché, dans une curie.
Il faut noter que cette décision du transfert des services importants de la curie diocésaine de Yopougon à l'ancienne résidence épiscopale de Monseigneur Mondjo s'est faite suite à l'état des dégradations très avancées de l'ancien évêché situé à la cathédrale Saint-André de Yopougon. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Au moins 8 personnes ont été tuées samedi dans la capitale somalienne Mogadiscio lors d'une attaque à la voiture piégée sur un checkpoint non loin du palais présidentiel revendiqué par les djihadistes Shebab, a indiqué Moukawiye Ahmed Moudé, le commissaire du district de Amar Jajab où l'attaque s'est produite. Après le port et l'aéroport, des manifestants ont bloqué samedi à Port-Soudan l'éloduc transportant le pétrole du voisin sud-soudanais. Dernière protestation en date dans cette ville soudanaise où la situation a été qualifiée de très grave par un ministre. Depuis le 17 septembre, des manifestants à Port-Soudan, ville située dans la région orientale du Soudan, ont bloqué les accès au port le plus important du pays et à l'aéroport, ainsi que des routes menant notamment à la capitale Khartoum. Selon des leaders des manifestations et des membres de la tribu des Béja, les protestataires cherchent à dénoncer un accord de paix avec des rebelles signé en 2020, mais rejeté par Béja, l'une des plus grandes tribus de l'Est du Soudan. Celle-ci assure qu'il ne lui garantit pas une représentation politique adéquate. Le chef de la junte militaire au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a désigné vendredi 93 députés d'un parlement de transition qu'il avait promis il y a 5 mois en se proclamant président au lendemain de la mort de son père Idriss Déby, tué dans des combats contre des rebelles. Mais aucun des députés de transition n'est issu de la plateforme de parti de l'opposition et de la société civile qui réclame un pouvoir civil. Des milliers de personnes ont manifesté vendredi à Tripoli pour dénoncer une motion de censure votée par le Parlement libyen contre le gouvernement de transition à 3 mois d'élections cruciales pour l'avenir du pays. Le Parlement ne me représente pas. Le peuple veut la chute du Parlement ou non aux divisions, pouvait-on lire sur les pancartes brandies par les manifestants.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
Reporter sans frontières, a fait part vendredi de sa vive inquiétude à propos du journaliste congolais Sosten Kambidi, inculpé et détenu depuis lundi soir dans l'enquête sur la mort d'Esper de l'ONU en 2017 en République démocratique du Congo. Le journaliste, selon l'Organisation de défense de la presse, est accusé de terrorisme et d'association de malfaiteurs pour avoir été en possession d'une vidéo de l'assassinat des Esper qu'il n'a jamais diffusée et qu'il avait transmise aux autorités. Le père jésuite Jean-Paul Savy nous introduit à la méditation avec les lectures du 26e dimanche du temps ordinaire.
Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 26e dimanche du temps ordinaire. Et les textes de la liturgie de ce jour nous situent au cœur même de notre engagement à la suite du Christ. Dans l'évangile d'aujourd'hui, les paroles de Jésus peuvent paraître dures et très radicales. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ses petits qui croit en moi, mieux vaudra pour lui qu'on lui attache au cou une de ses meules et qu'on le jette à la mer. Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Peut-être que la violence de ces paroles nous surprend. Mais Jésus ne nous demande pas de mutiler notre corps. Nous sommes plutôt appelés à circoncire notre esprit et notre cœur. En ce dimanche, le Christ nous appelle de nouveau à prendre résolument notre croix pour le suivre sur la voie de la perfection. Il nous demande ainsi de nous émonder en rompant radicalement avec certaines habitudes qui nous entraînent au péché pour ne pas devenir source de chute et de scandale pour les autres. Voilà pourquoi il nous signale trois choses sur lesquelles nous devons faire attention. La main, le pied et l'œil. Comment faisons-nous usage de ces membres de notre corps? Comment nous entraînent-ils au péché? Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui invités à prendre un moment de prière pour voir en toute vérité devant le Seigneur quelle est la source principale de nos péchés ou de nos mauvaises habitudes. Se séparer de la main, du pied ou de l'œil qui nous entraîne au péché, c'est avoir le courage de reconnaître en nous-mêmes d'où vient notre péché et de nous convertir. Ce n'est pas facile, mais c'est ce à quoi le Christ nous appelle. Prenons donc le temps de voir et de contempler nos mains, nos pieds et nos yeux, et de voir en quoi ces membres de notre corps nous conduisent au mal. Demandons pardon au Seigneur et la grâce de la conversion. Dans la deuxième lecture, Saint Jacques dénonce aussi avec des paroles fortes l'attitude des gens dont la richesse vient de l'oppression de leurs frères et sœurs. Il leur dit « Des travailleurs ont moissonné vos terres et vous ne les avez pas payées. Leur salaire crie vengeance et les revendications des moissonneurs sont arrivées aux oreilles du Seigneur de l'univers. » Vous avez cherché sur terre le plaisir et le luxe, et vous avez fait bombance pendant qu'on massacrait des gens. Vous avez condamné le juste, et vous l'avez tué sans qu'il vous résiste. Ces réalités que fustige l'apôtre Jacques sont encore actuelles. Il nous arrive de construire notre richesse sur la souffrance des autres. Il nous arrive de fermer nos mains pour tout garder, oubliant qu'en mourant, nous n'emportons rien. Et que nos richesses ne sont pas éternelles. L'apôtre Jacques nous interpelle donc sur nos comportements envers nos frères et sœurs et nous appelle à la conversion. Les richesses mal acquises peuvent fausser les relations de fraternité et de justice. Si le Seigneur nous fait grâce d'avoir des biens, c'est aussi pour que nous ayons un cœur généreux. L'amour que le Seigneur a mis dans nos cœurs, c'est cet amour qui doit guider notre vie et la manière dont nous devons traiter nos prochains. L'amour est la grande richesse de la vie. En ce dimanche, prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre notre engagement envers lui et envers nos frères et sœurs dans l'amour, afin de ne pas devenir source de chute et de scandale pour les autres.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Voilà, amis auditeurs, c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Françoise Niamia. Merci de l'avoir suivie en notre compagnie. Prochain rendez-vous demain à la même heure et sur la même fréquence. Au revoir.
Ma vie, c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Comme un bon berger, il m'a tant cherché et enfin trouvé. Je suis comblé, je veux le louer, je veux l'acclamer, partout annoncer qu'il est la vérité. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Oh, oh, oh.